Vous écoutez, on lit pour vous.
Santé Québec nuit à la qualité et à l'accès aux services, disent les travailleurs sociaux. Un texte de Marie-Michèle Sioui, publié le 24 mars 2026 dans Le Devoir. Les travailleurs sociaux du Québec jugent que l'accès à leurs services s'est détérioré depuis l'arrivée de Santé Québec et observent que la création de la société d'État a surtout nuit à la qualité des services sociaux, entre guillemets, invisibles, dans cette immense structure. Dans un sondage qu'il a remis au Devoir, l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec révèle que 58 % des travailleurs sociaux estiment que l'accessibilité des services qu'ils offrent s'est détériorée depuis la mise en activité de Santé Québec en décembre 2024. Quand ils se tournent vers l'avenir, 70 % des répondants croient aussi que cet accès se dégradera. Citation, « Il y avait beaucoup d'appréhension envers Santé Québec, et je pense que 2 ans plus tard, les appréhensions se sont concrétisées. » Fin de citation, observe la présidente de l'Ordre, Valérie Fernandez. Le sondage mené du 26 janvier au 23 février a été effectué auprès de 2123 travailleurs sociaux membres de l'Ordre professionnel. Sa marge d'erreur est de 1,99 19 fois sur 20. Parmi les travailleurs sociaux interrogés, 50% ont dit juger que l'arrivée de la société d'État a des impacts, guillemets, assez négatifs ou très négatifs, fin des guillemets, sur la qualité des services sociaux. Citation, le sentiment généralisé, c'est que les services sociaux sont invisibilisés au sein de Santé Québec, souligne Mme Fernandez, fin de citation. Fait intéressant, 30% des répondants ont dit ne pas savoir quel est l'impact de la nouvelle société d'État sur la qualité des services qu'ils offrent. Citation, il y a encore un gros flou sur cette grosse machine-là qui est devenue Santé Québec, dit Mme Fernandez. Elle souligne cependant que certains répondants ne travaillent pas dans le réseau public et que cela peut jouer sur leur niveau de connaissance de Santé Québec. La quantité avant la qualité. Dans une culture où les tableaux de bord sont mis en avant, les travailleurs sociaux disent aussi être évalués en fonction de critères quantitatifs et administratifs, au détriment de critères qualitatifs. Leurs gestionnaires utilisent des mesures comme le nombre de personnes prises en charge ou le nombre d'interventions réalisées. Or, les travailleurs sociaux jugent que leurs évaluations devraient plutôt porter sur la complexité des dossiers, les retombées positives des interventions sur la clientèle ou encore la satisfaction et le bien-être de celle-ci. Citation, c'est une mesure de performance qui est mal adaptée et qui a des effets délétères. Ça fait en sorte que les pratiques vont être orientées nécessairement vers des interventions qui sont plus rapides plutôt que des interventions plus pertinentes. Ça fait en sorte aussi qu'on va invisibiliser plusieurs interventions comme la prévention, la promotion, l'accompagnement, souligne Mme Fernandez, fin de citation. Ces pratiques invalidantes amènent, selon elle, citation, une perte de sens. Fin de citation pour les professionnels du réseau de la santé. Elle donne l'exemple d'une personne vivant dans la rue et qui trouve un logement. Citation, la travailleuse sociale va vouloir garder le dossier ouvert un certain temps pour que la personne se stabilise et qu'on prévienne la prochaine perte de logement. Ellipse, mais dans le contexte actuel, on va lui demander de fermer le dossier, dit-elle. Fin de citation. Si la personne retourne dans la rue, citation, on va refaire une nouvelle demande et repasser à travers tout le processus. Fin de citation. Noyé dans la paperasse. Les travailleurs sociaux se sont tout de même majoritairement, 72%, dit heureux dans leur profession. Le principal obstacle à leur bonheur, citation, les tâches et la lourdeur administrative et la bureaucratie, ont-ils répondu, Fin de citation. Madame Fernandez donne l'exemple d'un formulaire pour le soutien à domicile qui pouvait prendre, guillemets, 3 ou 4 rencontres, fin des guillemets, avant d'être rempli, en plus de contenir des questions intrusives, notamment sur la sexualité. Citation. Et après toutes ces questions-là, finalement, on leur disait, vous auriez besoin d'avoir 2 bains par semaine, mais on peut juste vous en offrir un. Fin de citation, ajoute-t-elle. Autre citation. Donc, la travailleuse sociale, ça fait des heures et des heures qu'elle remplit ce document-là, et finalement, l'offre de service, eh bien, elle ne répond pas du tout aux besoins de la personne. Fin de citation. Le simple fait de larguer ce formulaire au profit d'une fiche de synthèse a amélioré le bonheur des travailleurs sociaux de façon notable, entre guillemets, souligne Mme Fernandez. Pour améliorer les choses, l'Ordre prête Québec de soutenir l'autonomie professionnelle des travailleurs sociaux, d'élaborer de nouveaux indicateurs de performance, d'améliorer les conditions d'exercice de la profession, en plus de miser sur l'accessibilité et la qualité des services sociaux en première ligne dans sa prochaine politique sur le sujet qui doit être dévoilée dans quelques jours. Sollicité pour ce texte, Santé Québec a plutôt affirmé, citation, que ses plus récentes données pour la période allant jusqu'au 7 mars 2026 démontrent que les délais d'accès continuent de s'améliorer de façon tangible dans les CLSC. Concrètement, plus de 3 personnes sur 4 reçoivent maintenant leur service dans les délais prescrits. Fin de citation a écrit la porte-parole Geneviève Bétheis en soulignant que cela dépasse la cible annuelle des 73 % fixée dans le plan stratégique du ministère. C'était « Santé Québec nuit à la qualité et à l'accès aux services », disent des travailleurs sociaux. Un texte de Marie-Michel Sioui, publié le 24 mars 2026 dans Le Devoir.
Politique et loi. Nouvelle commissaire, nouvelle priorité. Kelly Burke vise les manquements à la loi sur les langues officielles. Un texte de Inès Lombardo paru le 14 avril 2026 dans le Nunavoie. Entretien. Inès Lombardo. Entrée en poste le 30 mars, la nouvelle commissaire aux langues officielles du Canada, Kelly Burke, veut identifier les manquements à la loi sur les langues officielles, écouter les besoins réels des communautés francophones sur le terrain et assurer le suivi des règlements en cours, dont un qui ne va pas assez loin. Nouvelle commissaire, nouvelle priorité, Kelly Burke vise les manquements à la loi sur les langues officielles. Franco-Presse. Vous êtes officiellement entré en poste le 30 mars. Comment s'est fait tout le briefage des dossiers et quelles sont, selon vous, les 3 priorités sur lesquelles doit plancher le commissariat aux langues officielles, CLO? Votre prédécesseur indiquait que le travail immédiat était au niveau des règlements. Kelly Burke. J'ai une équipe très bien rodée qui attendait impatiemment mon arrivée. Une des priorités, évidemment, c'est d'assurer une meilleure conformité à la loi sur les langues officielles, d'identifier où sont les problèmes systémiques au niveau des communications des services au public et de la langue de travail dans la fonction publique fédérale. Dans un deuxième temps, je pense que c'est de bien comprendre les communautés et les frustrations partout au pays, que ce soit du côté anglophone au Québec ou du côté francophone partout ailleurs. Je vois l'importance d'être présente et à l'écoute sur le terrain. Dans un troisième temps, c'est vraiment d'assurer que le cadre réglementaire est suffisamment robuste pour refléter une loi qui est robuste, elle aussi. Franco-Presse, Inès Lombardo. À propos du règlement sur les sanctions administratives que vous pourrez distribuer aux entreprises de transport en cas de non-conformité à la loi sur les langues officielles, doit-on augmenter les montants, selon vous? Kelly Burke. Je crois que le gouvernement a évolué dans son positionnement quant au maximum qui pourrait être imposé comme sanction. Ça va me prendre du temps supplémentaire pour bien saisir les tenants et les aboutissants du montant qui a été identifié et avec le temps, avec mon équipe, j'aurai des commentaires supplémentaires à offrir à ce niveau-là. Le règlement ne va pas assez loin pour comprendre des institutions qui devraient être assujetties à la loi. Franco-Presse. Votre prédécesseur suggérait d'assujettir au règlement les agents de sécurité dans les aéroports, des services frontaliers, etc. Donc, selon vous, faut-il que le règlement inclue davantage de compagnies canadiennes de transport ? Kelly Burke. Selon ma lecture des choses, oui, il y a quand même un règlement qui n'a pas évolué grandement à la suite des soumissions de la part du commissariat et de plusieurs intervenants. Le commissaire antérieur a pris une position que j'appuie. Le règlement ne va pas assez loin pour comprendre des institutions qui devraient être assujetties à la loi. On aimerait que ce règlement s'applique aussi aux autorités portuaires et à l'administration canadienne de la sécurité du transport aérien. On aimerait que ce règlement s'applique de façon plus étendue pour comprendre ce type d'institution. M. Théberge avait également affirmé qu'il était préoccupé par le manque de mesures positives dans le règlement sur la partie 7, qui porte entre autres sur l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion des deux langues officielles. Franco-Presse. Partagez-vous cette opinion ? Kelly Burke. C'est important de souligner que les mesures positives sont codifiées dans la loi et la partie 7 prévoit des engagements concrets de la part des institutions fédérales. Les parlementaires s'attendent à ce que les engagements sur les mesures positives soient respectés par les institutions fédérales. Il y a trois éléments qui s'attachent à cela. L'épanouissement des communautés, la protection et la promotion du français, et l'apprentissage tout au long de la vie. Mon prédécesseur avait mentionné que la partie 7 et les mesures positives, précisément, doivent évoluer pour que les institutions fédérales développent les mesures positives afin de respecter les trois éléments que je viens de mentionner. Franco-Presse, Inès Lombardo. Il y a plusieurs exemples et des rapports qui ont souligné que la fonction publique fédérale était parfois hostile au bilinguisme et aux travailleurs francophones. Le CLO a rappelé à l'ordre le Conseil du Trésor. Comment comptez-vous aborder ce problème qui semble être récurrent ? Kelly Burke. Selon moi, ce qui est essentiel au cœur de la fonction publique fédérale, c'est un leadership qui apprécie et reconnaît l'importance du bilinguisme canadien et le choix des employés de travailler dans leur langue de choix. J'ai pleinement l'intention de collaborer avec les institutions fédérales pour cela. Au-delà du leadership, ça va prendre des ressources pour que les institutions soient suffisamment outillées pour effectuer une bonne surveillance des droits linguistiques et une mise en œuvre de la loi sur les langues officielles. Inès Lombardo, le bilinguisme canadien est demeuré stable à 18% de la population, en grande partie attribué à l'immigration francophone et au programme d'immersion française. C'était « Nouvelle commissaire, nouvelle priorité », Kelly Burke vise les manquements à la loi sur les langues officielles, un texte de Inès Lombardo paru le 14 avril 2026 dans le Nunavoie.
L'ennui à apprivoiser. Un texte de Marissa Grosguet, paru le 12 avril 2026 dans la presse. Généralement considéré comme un état à éviter, l'ennui aurait pourtant des bénéfices cachés. Cela ne fait pas très longtemps que j'ai réalisé être la seule dans mon entourage à faire une chose que je pensais pourtant courante. Régulièrement, je m'installe dans une pièce de mon appartement et je ne fais rien. Je ne suis pas en réflexion active. Mes pensées vont et viennent sans que je les intercepte. Je ne somnole pas, je suis tout éveillé, et je ne cherche aucunement à combler le moment par une distraction. Pendant ce temps, je ne suis qu'un corps au neutre. Je pourrais sembler décrire un état méditatif, mais il y a une différence entre ces moments et ceux où je m'installe consciemment pour pratiquer la méditation, ou bien pour me reposer. Dans le premier cas, j'appellerais plutôt ça de l'ennui. Un ennui que je provoque intentionnellement, mais s'agit-il du bon terme? Qu'est-ce que l'ennui? Et suis-je la seule à tirer des bénéfices de cet état généralement abhorré? Pour le philosophe allemand Martin Heidegger, 1889-1976, l'ennui est bel et bien une chose à cultiver. Un état de distorsion du temps que tout le monde connaît. Selon lui, il existe trois types d'ennui. Être ennuyé par quelque chose, en faisant la queue à l'épicerie, par exemple. S'ennuyer à quelque chose, durant un spectacle qui ne nous divertit pas. Et finalement, vivre un ennui profond, où rien de précis ne nous ennuie, comme c'est le cas lors de mes périodes d'ennui volontaire. Dans cette dernière forme d'ennui, l'homme fait face à sa propre vacuité. Il n'est plus rien, plus personne, dit Heidegger. Loin d'être perçu comme un malheur, cette vacuité est plutôt une occasion aux yeux du philosophe. L'ennui profond devient une expérience existentielle majeure car toute chose, toute activité se retrouve dépouillée de leur importance et il n'en reste que la possibilité de faire face à soi-même, de mieux se comprendre. Un moteur de comportement. Une fois que j'ai fait le plein d'ennui, quelque chose s'active en moi. Je me sens ressourcé, un peu plus en paix. Non pas comme après une bonne sieste, j'ai plutôt envie de m'activer cérébralement, de stimuler mon esprit. L'action de briser l'ennui que j'ai laissé s'installer m'insuffle un entrain nouveau, différent. On peut se mettre dans un état d'ennui volontaire, mais on voudra ensuite trouver un stimulus pour en sortir. La question c'est, qu'est-ce qu'on peut construire pour diriger ce besoin de stimulation vers quelque chose pour s'occuper qui peut être une source de bonheur? Lance Alexis Tétrault, doctorant en philosophie de l'Université d'Ottawa. Les philosophes du 18e siècle ne prônaient pas une acceptation de l'ennui, car pour eux, c'est une condition que l'être humain cherchera à fuir. Ils trouveraient d'ailleurs paradoxal, mais intéressant, de se placer intentionnellement dans un état ennuyant, s'amuse l'expert. Leur définition n'était pas exactement celle qu'on en a aujourd'hui, mais l'un des points communs entre la perception moderne de l'ennui et celle de certains anciens philosophes est qu'il est un symptôme d'insatisfaction de l'esprit. Des penseurs tels Claude-Adrien Helvétius ou Jean-Baptiste Dubos on décrit l'ennui comme une grande douleur pour les humains. L'âme a ses besoins, comme le corps est l'un des plus grands besoins de l'homme et celui d'avoir l'esprit occupé, a dit Dubos en 1719. L'ennui qui suit bientôt l'inaction de l'âme est un mal si douloureux pour l'homme qu'il entreprend souvent les travaux les plus pénibles afin de s'épargner la peine d'en être tourmenté. L'ennui, pour ces philosophes du 18e siècle, représente ainsi un moteur de comportement. S'il est l'agent d'une prise d'action, l'ennui peut-il être manipulé pour nous servir? Bien qu'initialement source d'inconfort, n'est-il donc pas le parfait instigateur d'une recherche d'un état plus plaisant? Alexis Tétrault estime que c'est possible. Ma tendance à rechercher l'ennui pour me motiver en est une preuve. Mais il y a un mais. Toujours selon les philosophes qu'il a étudiés, l'humain va vouloir trouver la façon la plus économe de se désennuyer pour fuir l'état de douleur, dit le doctorant. On va alors pouvoir adopter des comportements positifs et plaisants, mais il faut mettre les conditions en place pour que ce soit possible, ajoute-t-il. Si l'ennui est vraiment une recherche de stimulus, alors pour qu'il mène à la créativité, par exemple, il faut avoir accès au matériel pour être créatif. La nature humaine ferait en sorte que d'ouvrir TikTok sur son téléphone pourrait sembler la façon la plus simple de combattre l'ennui si on ne met pas l'effort de le diriger ailleurs, vers un livre, un bon film, la cuisine, l'écriture, la peinture, le sport ou toute autre activité qui nous sera bénéfique, nous rendra plus heureux. Bref, si le fait de s'ennuyer comporte de quelconques avantages, il nous incombe d'activement les récolter. C'était « L'ennui à apprivoiser », un texte de Marissa Grosguet, paru le 12 avril 2026 dans La Presse.
C'est un méga dépotoir. 4 solutions pour rendre les rues de Montréal plus propres. Un texte de Geneviève Abran, paru le 16 avril 2026 dans TVA Nouvelles. Seriez-vous prêt à retirer des places de stationnement pour laisser place à des gros conteneurs pour y déposer les ordures? C'est l'une des solutions possibles pour améliorer la propreté de la ville. C'est tellement rendu dégueulasse. Comment vous faites pour vivre comme ça? C'est un méga dépotoir, déplorait récemment un utilisateur de la plateforme Reddit. Son commentaire n'a rien d'exceptionnel. Chaque printemps, les Montréalais se plaignent de la propreté des rues ou jonchent les déchets jusque-là cachés par les accumulations de neige. Ensemble Montréal, le parti de la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada, a fait de cet enjeu l'un de ses principaux chevaux de bataille lorsqu'il était à l'opposition à l'Hôtel de Ville, puis en campagne électorale et, finalement, depuis son ascension au pouvoir. Si bien qu'en mars dernier, l'administration Martinez-Ferrada a lancé hâtivement son grand ménage de printemps en devançant le déploiement des équipes de nettoyage. Elles travailleront aussi plus longtemps qu'à l'habitude. Au-delà de cette mesure à court terme, qu'est-ce que la ville pourrait faire pour accroître la propreté des rues? Voici 4 solutions possibles. 1. Remplacer les sacs par des bacs. Adieu, sac en plastique. Bonjour, bac plus résistant, suggère le directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal, Fabien Kenzo Sato. Les bordures de rue des secteurs résidentiels s'en porteront bien mieux, croit-il. Ce qu'on recommande, c'est d'avoir une collecte dans des contenants fermés, standardisés, qui vont aussi être pratiques et ergonomiques pour les éboueurs et qui ne vont pas s'ouvrir facilement avec les animaux ou qui ne vont pas se faire déchirer parce qu'il y a une déneigeuse de trottoir qui est passée, ajoute-t-il. À preuve, la méthode porte ses fruits dans l'arrondissement de Saint-Laurent où les bacs noirs sont fournis aux résidents d'immeubles de 8 logements ou moins. Il y a toutefois un bémol à cette solution. Dans les quartiers plus denses, il pourrait ne pas y avoir suffisamment de place pour que chaque logement ait son propre bac, note Fabien Kenzo Sato. Pour les quartiers plus populeux, il propose donc d'implanter des points d'apport volontaires, c'est-à-dire des grands conteneurs où les résidents peuvent y déposer quand ils le souhaitent leurs déchets, s'ils n'ont pas la place pour les entreposer à leur domicile. Il y a plein d'endroits stratégiques qui existent, comme des coins de rue, là où les trottoirs sont plus larges, ou en prenant la place sur une case de stationnement. Ça permet d'avoir un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un endroit pour jeter ses déchets, soutient Fabien Kenzo Sato. Les conteneurs peuvent aussi être enterrés ou semi-enterrés. 2. des poubelles plus grandes. Autre solution à considérer, remplacer les poubelles de taille normale par des conteneurs dans les zones achalandées de lieux publics. Comme pour les points d'apport volontaires, ces conteneurs pourraient être placés à des endroits où les trottoirs sont plus larges, dans des places de stationnement, ou bien aux abords des parcs, où ils sont suffisamment accessibles aux camions-bennes. La mesure est d'ailleurs répandue dans plusieurs grandes villes européennes. Amsterdam, Pays-Bas, Cannes, France, Bilbao, Espagne, et Bergen, Norvège, pour ne nommer que celle-ci. Elle a d'ailleurs failli être implantée à Montréal. Un projet pilote adopté par l'ancienne administration prévoyait d'installer des conteneurs aux sorties du parc La Fontaine pour remplacer les poubelles déjà aménagées qui débordent fréquemment durant l'été. Le projet a toutefois été annulé après une levée de boucliers. Dans les endroits très achalandés où les gens vont prendre beaucoup de repas pour emporter, avoir des pique-niques dans des parcs, vous avez beau mettre plein de petites poubelles, il y a certains jours que ça va déborder, explique M. Sato. Selon lui, les gens peuvent marcher 50 mètres de plus pour jeter leurs déchets. 3. Des poubelles fermées. Remplacer les poubelles dans les parcs et dans les rues par des poubelles fermées empêcherait les animaux et le vent de disperser leur contenu. 4. Enlever toutes les poubelles publiques. Si vous êtes l'un des nombreux Québécois qui ont visité le Japon, vous avez peut-être été surpris par la propreté et l'absence de poubelles dans la majorité des lieux publics. Un tel scénario est-il envisageable à Montréal? Pas à court terme, pense Fabien Kenzo Sato, mais peut-être à plus long terme. Ce n'est pas une démarche qui peut se faire du jour au lendemain. Ça prend un accompagnement plus fort et progressif. On n'a pas encore d'habitude de tri très fine et on n'a pas non plus les mêmes référents culturels depuis que nous sommes tout petits, pense Fabien Kenzo Sato, lui-même d'origine japonaise. Évidemment, il y a une part de responsabilité individuelle, poursuit-il. Et la mairesse Soraya Martinez-Ferrada mise justement sur cette responsabilité individuelle pour améliorer la propreté des rues. Au début du mois d'avril, elle a publié une vidéo dans laquelle elle tient une pancarte indiquant « On doit tous ramasser nos déchets ». La propreté repose avant tout sur les comportements, a indiqué la Ville de Montréal par courriel à 24 heures. Comme ailleurs, Montréal croit à l'implication de la population, notamment à travers des corvées bénévoles, des initiatives communautaires et des partenariats locaux, mais toujours dans une logique de responsabilité partagée, ajoute-t-on. C'était « C'est un méga dépotoir, quatre solutions pour rendre les rues de Montréal plus propres ». Un texte de Geneviève Abran, paru le 16 avril 2026 dans TVA Nouvelles.